Édique religieuse par le père Philippe à Saint-Judas, le 23 mai 90.
Réponse à quelques questions. Professeur qui enseigne a autorité. Si de fait il a atteint la vérité, un professeur qui n'a rien atteint de la vérité n'a aucune autorité. Il est fonctionnaire, il est sophiste, il a un pouvoir de coercition par rapport aux examens. Tu ne passeras pas ton examen, tu es un imbécile, parce que tu n'écoutes pas mon cours. Donc tu es un imbécile. Pouvoir de coercition, qui joue énormément. C'est évident. Ce n'est pas l'autorité. Ce n'est pas le démagistrat de Saint-Thomas. Le professeur a autorité dans la mesure où il atteint la vérité. Et plus il a atteint la vérité, plus il a une vision de sagesse, plus il a d'autorité. Le pouvoir de coercition est nul. Mais ce qui est merveilleux ici, c'est qu'il n'y a pas de pouvoir de coercition. Parce qu'il n'y a pas de note à l'examen. Et c'est fait exprès pour qu'on comprenne l'autorité paternelle jusque dans les examens. Je crois que c'est une tradition dans l'Église, une tradition monastique, qui ne peut pas se communiquer en dehors de la vie monastique. On ne doit jamais arrêter quelqu'un à cause des difficultés qu'il peut avoir à entrer en philosophie. Ça n'a rien à voir avec le point de vue de la charité. S'il fait des efforts, aucun pouvoir de coercition, mais autorité paternelle dans l'enseignement, recherche de la vérité. Les parrains ont-ils autorité? Principe de subsidiarité. Ils sont mandatés pour aider. Donc ils sont des tuteurs. À ce point de vue-là, ils ont une certaine autorité. Mais s'il y a un petit conflit entre celui qui est parrainé et celui qui parraine, s'il y a un petit conflit, on va à l'autorité, à la source. Voilà ce qu'il me dit. C'est pas vrai. Vous savez bien. Toujours se rappeler ce type dans l'hôpital psychiatrique. Vous allez voir, il dit qu'il est le fils de Dieu, mais pas du tout, moi je suis le père, je le sais bien. Ça dirime toutes les difficultés. Médiation. Dans le temps. de subsidiarité, je mandate quelqu'un pour aider, soutenir. Elle a une autorité parce que il est un tout petit peu plus avancé dans l'ordre de la recherche de la vérité. Autorité, alors qu'elle n'est plus dans l'ordre de l'enseignement, qu'elle est dans l'ordre de l'éducation. C'est celui qui a le sens de la finalité. Ce n'est pas le géniteur qui, comme géniteur, a autorité dans l'ordre de l'éducation. Parce qu'il n'a pas été géniteur de l'esprit et de l'âme spirituelle. Et donc il peut avoir autorité dans l'ordre de l'éducation que dans la mesure où il a le sens de la finalité. Ça, c'est sûr. Et là, la médiation peut aussi se faire dans le sens où quelqu'un d'autre a aussi le sens de l'autorité, le sens de la finalité. Mais vous comprenez qu'on a le sens de la finalité que dans la mesure où soi-même on est engagé. Je ne peux pas avoir un sens spéculatif de la finalité si je ne suis pas finalisé. C'est très important, ça. Donc, on a autorité que dans la mesure où on est soi-même entièrement finalisé. Alors, vous voyez que là, le principe de subsidiarité est beaucoup moins grand. Le principe de subsidiarité implique quelqu'un qui est finalisé. Mais ce n'est pas le principe de subsidiarité qui lui donnera la finalité. Le principe de subsidiarité implique le choix de quelqu'un qui est finalisé et qu'on le déclare. Oui, vous êtes suffisamment finalisé pour pouvoir éduquer. C'est ce que fait l'Église quand elle demande le mandat à un prieur, à un permettre. Elle reconnaît que c'est ce que fait l'Église quand elle consacre un prêtre évêque. Alors ça c'est d'ordre surnaturel, mais au point de vue purement philosophique, je le constate dans l'ordre de l'éducation. Et très souvent, hélas, on le constate par mode d'expérience. Les gosses sentent tout de suite ceux qui sont finalisés. Ils ont un radar là-dessus. Extraordinaire. Et ceux qui sont finalisés ont autorité, ceux qui ne le sont pas. Ils peuvent jouer, faire semblant. Mais à un moment de crise, ça se dévoilera. Donc ça ne joue pas jusqu'au bout. C'est très intéressant, ça. Ce serait très intéressant. Alors, ce serait de l'ordre de l'éducation, n'est-ce pas ? Il faudrait traiter ça. Donc, voyez, si oui, la médiation peut-elle échapper à l'anonymat ? La médiation se fait personnellement. Toujours. Avec deux critères, la finalité et la compétence. Je peux donner le mandat de mon autorité au point de vue enseignement à quelqu'un qui a la compétence. Je peux donner mon mandat d'autorité au point de vue éducation à quelqu'un qui est finalisé et qui a un minimum de compétence. Mais la finalité, j'y vis toujours. Pour pouvoir avoir autorité dans l'enseignement, il faut être finalisé dans la recherche de la vérité. Pour avoir autorité dans l'enseignement, transgression. Pour le savoir, vous voyez, au point de vue la manière de gouverner une industrie, est-ce que partager les responsabilités? Ou est-ce qu'il faut nécessairement un seul? On peut partager les pouvoirs, ça c'est facile. Avoir des gendarmes, c'est assez facile. Il suffit d'avoir des grosses gueules. Alors, c'est facile, ça c'est la question du pouvoir, c'est facile. Là, s'il n'y a pas de grosses gueules, on lui donne un corps de chasse. Ou un signal d'alarme qui alerte. Tandis que la coopération est très délicate. Alors je crois que toujours, il faut qu'il y ait un premier. Le principe de subsidiarité implique un ordre. Donc on ne peut pas faire que tous aient la même autorité. Ce serait faux. Ce serait la destruction de l'autorité. Parce que l'autorité est paternelle et implique un principe, un princeps, un premier. N'y a pas de démocratie d'autorité, autrement dit. Le suffrage universel ne donne pas l'autorité, mais le signal. Se médiatise, oui, le pouvoir c'est ce qui se médiatise le plus facilement. C'est très facile de médiatiser le pouvoir. Il suffit d'appliquer la loi. Tu mettras une amende à celui qui arrivera en retard pendant 8 jours à son travail. Pouvoir. Et là tu le diras. Premier avertissement, deuxième avertissement, troisième avertissement. Et s'il continue, la porte. Ça c'est le pouvoir médiatisé. Tandis que l'autorité médiatisée, c'est beaucoup plus complexe. Mais elle existe, ça c'est sûr. Ça, vous voyez, c'est un problème de politique et d'éducation. Donc il faut savoir qu'est-ce que c'est que l'autorité et voir que l'autorité est attribuée en premier lieu au premier qui a le sens de la finalité. Pouvez-vous expliciter ce qui fait que l'autorité est plus paternelle? Ne peut-on pas dire que Dieu, source véritable de toute autorité, est autant mère que père, surtout en philosophie? Eh bien non, il n'est pas autant père que mère. Il est plus père que mère. La maternité, c'est la miséricorde. Tandis que la paternité, c'est l'autorité. Et pourquoi alors ça, c'est d'être prince, d'être premier? Très, très curieux. Alors là, évidemment, je ne vais pas développer ça, mais en théologie naturelle, ce serait très intéressant de voir comment pouvons-nous attribuer philosophiquement parlant, dans une théologie naturelle, à Dieu d'être mère. Dieu, en tant que créateur, est-il mère? La mère, c'est celle qui garde la vie pour permettre à la vie de s'épanouir. Alors, il y a création. Conservation. Dieu entend qu'il garde la vie et mère. Entend qu'il crée, il est père. Il serait intéressant de voir les deux aspects. Tout l'aspect de la maternité, qui est avant tout le point de vue de la miséricorde. La mère, c'est la bonne terre qui garde la vie. Elle est responsable de la durée, de la croissance. Ça, c'est l'aspect matériel. la touche, le point de vue, principe. Et la mer est relative à ce principe. Ne disons pas parce qu'elle est passive. Ce principe et elle le garde. Le rôle de la mère, c'est de garder, conserver, permettre dans la fidélité la croissance. Elle est responsable de cela. Voyez donc, on peut très bien, au point de vue philosophique, essayer de comprendre la paternité et la maternité de Dieu par le point de vue de la création. Point de vue de la conservation. Dieu garde son dépôt. Dieu ne dépose jamais son fardeau. À ce point de vue-là, il est maternel. C'est ce que dit Tertullien. Dieu est mère en ce sens qu'il ne dépose jamais son fardeau. La création est portée par Dieu. Et nous sommes portés par Dieu. C'est le verbe qui Donc ça, c'est l'aspect maternel. Peut-on dire que l'enfant pourra vivre plus immédiatement d'un amour d'adoration et d'une obéissance dans la mesure où cela est connaturel à ce qu'il vit dans l'amour filial? Philosophiquement parlant, non. Mais ça, c'est très important, peut-être, à bien préciser. Parce que c'est des choses qui se disent tout le temps. Combien de fois j'ai entendu quelqu'un qui disait, alors ça, c'est au plan surnaturel. J'ai beaucoup de peine à aimer la Vierge Marie parce que ma mère était une mère captative. Alors j'ai très très peur de m'approcher de la Sainte Vierge, elle va me capter et puis je vais être en prison. Alors, qu'est-ce qu'il faut répondre à ça? Psychologiquement parlant, je comprends très bien. Mais le mystère de la maternité divine est au-dessus du point de vue psychologique. Une question de foi. Et la psychologie ne pénètre pas dans la foi. Puisque c'est quelque chose de divin. Quelque chose de nouveau. Mais psychologiquement parlant, je comprends très bien. Et dans la mesure où on a été très marqué par le point de vue psychologique, du conditionnement, on a beaucoup de peine de s'en tirer. Mais il ne faut jamais dire qu'on ne pourra pas s'en tirer. Pas du tout. C'est dit dans le prologue de Saint Jean. Vous savez, ceux qui sont nés de Dieu ne sont pas nés de la chair, du sang et du vouloir d'homme. Tous les conditionnements sont dépassés. La grâce nous fait vivre dans la lumière de Dieu. Donc ils ne sont jamais « j'ai eu une mère captative, donc je ne peux pas comprendre le mystère de Marie ». C'est faux. C'est vrai psychologiquement, mais c'est faux divinement parlant. Oh, je suis au niveau de la vie divine, là. Alors, ceci, c'est au niveau théologique et de ma vie divine, éthique chrétienne. En éthique proprement religieuse, je peux dire quelque chose d'analogue. Quand je découvre Dieu, je ne découvre pas un super père. C'est pas super. Je ne découvre pas une super mère. Je découvre quelque chose de tout à fait nouveau. Nouveau. Vous voyez, c'est là où l'analogie joue. l'analogie artistique. Insiste sur la similitude. L'analogie philosophique insiste sur la diversité. Alors, mettez ce petit chêne parce que c'est très important à comprendre ça. Donc, l'éthique première de l'amour d'amitié. C'est que la famille. Puisque toute la famille repose sur l'amour d'amitié de l'époux et l'épouse. Là, vous voyez la similitude. Hep, hep. Donc, l'amour d'amitié fonde la famille. Ce lien qui existe entre les enfants et la mère ou le père, lorsque je suis en éthique religieuse, je découvre Dieu, le Créateur, et l'adoration, c'est l'enfant, si vous voulez, ou bien l'homme. Découvre le Créateur comme Père, comme Mère, dans l'adoration. Si l'adoration est vécue pleinement et totalement, je découvre en Dieu un principe. Une source, c'est plus facile à comprendre, une source totalement différente du père et de la mère. C'est sûr. Dieu est tout autre. Et donc, la découverte dans l'adoration de Dieu est quelque chose de tout à fait différent que le lien que l'enfant a avec son père. C'est très rare que nous arrivions à avoir cette lucidité. Ça met du temps. Avant d'avoir cette lucidité, on fait comme un prolongement. C'est ce que les psychologues soulignent très fort. Et je comprends très bien, la plupart du temps, le conditionnement du lien de l'enfant avec les parents est tellement fort, parce qu'il est premier, génétiquement parlant. Normalement, nous avons connu notre mère et notre père avant de connaître Dieu. Génétiquement parlant. Et si nous avons eu une mère très captative et un père terriblement autoritaire, on est coincé. Pas du tout envie de retrouver un super Dieu autorité père. Qu'est-ce que je ferai en face de lui? Je le fuis. Et j'ai pas du tout envie de retrouver une super mère captatrice où je serai toujours dans mon berceau. On ne m'autorisera pas de sortir du berceau. Parce que dès que je sors du berceau, je commence à courir. Et je me cache. Et la mère ne me trouve pas, elle me cherche. Je suis sorti du berceau. Tant que je suis dans le berceau, avec bien ficelé, je reste dans le berceau. Je n'ai pas du tout envie de retrouver une super mère captatrice, un super père autoritaire. Vous voyez, ça c'est le point de vue psychologique. Ce point de vue psychologique existe. C'est bien évident qu'il existe. Et pour conditionnement premier demeure. C'est le conditionnement qui, alors, à ce moment-là, détermine. Et je ne suis plus dans la vérité. Je suis dans une sincérité. C'est mon conditionnement. Je dois arriver à découvrir que, de fait, c'est vrai. Mon premier conditionnement est familial. C'est le premier conditionnement. Il est familial. Et donc, il est très fort. Sortir de la famille, au-delà de la famille, c'est la découverte de cette source première qui est Dieu. Et à ce moment-là, quand j'adore, j'adore le Créateur et non pas un super père. Je suis dans la confiance à l'égard d'un Dieu Créateur qui me porte. Et non pas d'une super mère. Et donc l'adoration et la confiance ont leur détermination propre. Et non pas simplement un super conditionnement. Mais c'est vrai que génétiquement, il y en a peut-être des quantités qui demeurent dans ce super conditionnement. Et la philosophie ne se fonde pas sur le suffrage universel. Elle cherche la vérité. Oui.
Est-ce que le sacrement de mariage ne peut pas amener à un conditionnement positif, en ce sens que l'amour maternel donne à l'enfant une image toujours imparfaite, mais quand même, qui renvoie autant.
Je suis au plan surnaturel. Oui. Regardons d'abord au plan philosophique. Voyez. Parce que la psychologie doit se comprendre comme l'expérience que j'ai de mon conditionnement. Et le point de vue philosophique montre la confusion qu'il y a. Ensuite, vous regarderez qu'au plan surnaturel. Parce que dans le plan surnaturel, les liens sont différents. Là, je suis d'accord avec vous, mais le plan surnaturel est vécu aussi dans un point de vue humain, et que le point de vue humain existe toujours. Oui. Et je dirais, comme vous dites, le conditionnement positif, faites attention dans le langage, parce que le conditionnement n'est jamais positif, il limite toujours. Tout conditionnement limite. Parce qu'au plan surnaturel, je dirais, il n'y a plus de conditionnement. Tout conditionnement est humain. Puisque les vertus théologales font que l'objet, c'est ma fin. Au plan surnaturel, il n'y a plus de conditionnement. C'est ça qui est merveilleux. Un gosse qui découvre Dieu comme père, il découvre Dieu. Dans l'absolu de Dieu, dans son amour, il découvre Jésus. Mais dans sa vie concrète, le conditionnement humain revient à toute vitesse. Oui. Alors, il faut le regarder au plan philosophique, la question du conditionnement et de la finalité, ce qui est toujours très, très difficile à bien discerner. Et toute la philosophie est faite pour arriver à ça. Distinguer le conditionnement. Alors, ce que je veux préciser ici, vous voyez, c'est que si j'ai une analogie d'ordre psychologique, donc un méta-père, une méta-mère, un super-père, un super-mère, ou une super-mère, c'est pas une belle-mère, mais si j'ai ce point de vue du conditionnement psychologique, le point de vue de la similitude est premier, et je n'en sors pas. Si au contraire, j'arrive à avoir une lucidité suffisamment pas si vous voyez suffisamment, parce que le mot analogie est lui-même terriblement perfide. Je dirais qu'il y a deux analogies. L'analogie de la similitude. L'analogie de la diversité. L'analogie de la similitude, vous l'avez au niveau artistique et au niveau psychologique. Parce que c'est là la question. Ou Est-ce que toute éducation va impliquer explicitement une éthique religieuse? C'est une question très brûlante aujourd'hui, hein, terriblement brûlante. Et parce qu'elle est terriblement brûlante, elle est très passionnée. Il faudrait pouvoir. C'est une question disputée, sans qu'il serait très intéressante. Question disputée qui serait peut-être à développer au niveau communautaire. Pour l'année prochaine. Ça serait très intéressant, vous voyez. Saint-Jean éducation. La traiter philosophiquement, la traiter psychologiquement, la traiter au point de vue profond. Y a-t-il une éducation au niveau uniquement éthique, fondamentalement humaine, fondée sur l'amour d'amitié? Je pose la question, hein. C'est déjà beaucoup. Où est-ce que cette éthique, où cette éducation restera-t-elle toujours embryonnaire? Elle existe, mais comme une première éducation qui n'ira pas jusqu'au bout. C'est ce que j'appelle la disposition. Et non pas une véritable éducation qui donnera l'autonomie. Et au fond, vous avez l'analogie de similitude et de diversité. Qui sera là au cours. Oui. Donc là, il y a une question très importante qu'il faut se poser, et je la résous pas maintenant, parce que c'est tout le problème de l'éducation. Par l'abandon, s'incarnant dans la vertu d'obéissance, qu'est-ce qui m'est dévoilé de plus quant à ma bonté substantielle? Rien. Quant à ma bonté substantielle, la bonté ultime, oui, puisque je touche justement quelque chose qui est ma fin. Mais ma bonté substantielle, non. Je saisis l'être dans sa substance avant de saisir Dieu. C'est bien évident. Quand saint Thomas fait cette petite affirmation, très simple mais si importante, il fait ça dans un acte primo, pour montrer que... Quand saint Thomas dit que l'ens ut ens, ce qui est en tant qu'il est. Et ni créé, ni incréé. C'est-à-dire que la ratio entis, comme tel, n'est ni créé ni incréé. Ce qui fonde une philosophie première. Ce que Wolf n'a pas compris. Puisqu'il divise la philosophie en philosophie de la créature et une philosophie de Dieu. Théodicée. ni craie ni agrée. Parce qu'en vous regardant en premier lieu, je peux dire, oh, quelle belle créature. Non, je dis bonjour. Il est. Il existe. C'est suffisant. Ceci est. Dans mon jugement d'existence, je ne dis pas ceci est une créature, mais non. Pour pouvoir dire que c'est une créature, il faut avoir découvert le créateur. Oui, ça incite un jugement de foi. Comme croyant, je peux vous dire tout de suite, ah, toi, tu es une créature et tu l'oublies. C'est ce qu'on dit le mercredi des cendres. Tu es poussière. Hein, et tu retournes en poussière. Hein, tu es une créature. Et n'oublie pas que, étant une créature, un jour, ton corps, parce que tu es né dans le péché. C'est pas philosophique du tout. Je peux pas faire, au point de vue philosophique, une liturgie particulière au début de l'année, n'est-ce pas ? Dire, on va entrer en métaphysique, alors d'abord, hein, on va vous donner les cendres. Non, pas du tout. La métaphysique commence sur ce qui est, en tant qu'il est. Tandis que Suarez ferait une liturgie de l'être fini et infini. Dites-vous bien qu'en vous, il y a l'être dont vous êtes infini. Et en vous, il y a l'être dont vous êtes fini. La voyez Feuerbach. Suarez donne naissance immédiatement à Feuerbach. L'infini de l'être. Donc si vous êtes un être infini, vous n'avez pas besoin de Dieu, vous êtes infini. Or, vous existez. Je ne peux pas nier que vous existez. Donc, il y a en vous l'infini. S'il y a vous l'infini, et vous expulsez Dieu, il n'y a plus de place pour Dieu. Suarez donne naissance à Feuerbach. C'est pour ça qu'après Feuerbach, je ne peux pas revenir à Suarez. C'est impossible. Vous voyez, c'est comme celui qui était mangé par le lion et qui revient en se disant, je désirais être mangé par le lion. Suarez est mangé par Feuerbach, le lion. Alors après, on peut plus. On sait. Bon. Ceci, c'est pour donner à réflexion. Alors je vais continuer maintenant. Thank you.